France Inter.
Hélène Philippe pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. Une arme sur la tête. Récit d'une ex-otage du Hamas. La première à raconter publiquement les violences sexuelles subies en captivité. Le Hamas en fait une arme, dénonce Israël, qui appelle le monde à agir. Où trouver les dizaines de milliards d'euros qui manquent? Le casse-tête du gouvernement. Le Premier ministre Gabriel Attal aux 20h de TF1 ce soir. L'actualité, c'est encore une centaine de Français évacués d'Haïti. L'Église catholique qui séduit, le nombre de baptisés du week-end de Pâques augmente et c'est particulièrement frappant chez les adolescents. Des avions de chasse qui passent et repassent, 300 pintades meurent d'un coup en Mayenne, victime de ce qu'on appelle une frayeur soudaine, vous l'entendrez. Encore des questions sur les rémunérations au sein du comité olympique et nous serons à Lyon pour le quart de finale retour de la Ligue des Champions entre les Lyonnaises et le Benfica. Juste après ce journal, la Corse est-elle encore en France? Le téléphone Fonson, question posée au 01 45 24 7000.
France Inter.
Plusieurs ex-otages ont déjà raconté leur calvaire aux mains des terroristes du Hamas. La franco-israélienne Miachem, notamment, c'était fin décembre, quelques mois après sa libération. Elle évoquait les menaces, les humiliations subies pendant des jours. Mais aujourd'hui, et pour la première fois, ce sont les agressions sexuelles que décrit une autre femme au New York Times, Amit Susana, une avocate israélienne de 40 ans. Bonsoir Étienne Monin.
Bonsoir.
Elle a été enlevée dans le kibboutz de Kfar Azar le 7 octobre dernier.
Et elle a été interrogée pendant 8 heures par les correspondants du New York Times. Ce qui ressort avant tout, c'est cette condition d'objet dans lequel se retrouvent les otages du Hamas. Cette juriste israélienne raconte qu'elle a été battue à deux reprises par ses ravisseurs, qu'elle a été trimballée dans plusieurs maisons, cachée dans un tunnel, attachée parfois avec une chaîne, nourrie d'un seul repas et violée par le premier de ses geôliers. Elle décrit cette scène avec précision. Elle est confirmée aux journalistes par deux médecin israélien et un travailleur social. Ça se passe presque 15 jours après l'enlèvement, dans sa première cellule. C'est une chambre d'enfant qui est plongée continuellement dans le noir et ça se passe dans une maison de Gaza. Son geôlier l'a fait sortir de la douche. Il la menace d'un pistolet. Il a vraisemblablement prémédité son acte depuis plusieurs jours. Amit Susana, on a parlé donc à des médecins après sa libération qui a eu lieu pendant la trêve. Elle dit qu'elle l'évoque aujourd'hui publiquement pour alerter sur le sort des autres otages qui sont toujours détenus.
C'est donc le premier témoignage direct de ces violences sexuelles subies par les otages. Étienne, en quoi est-il si important ?
Eh bien parce que c'est un rare témoignage direct. L'ONU a confirmé l'existence de viols pendant l'attaque du 7 octobre. Une association israélienne très impliquée sur ces histoires a aussi affirmé un peu avant que le viol avait été systématiquement utilisé pendant les massacres. Mais il n'y avait pas de chiffres, pas de témoignage direct. Amit Susana incarne donc cette souffrance. C'est aussi une façon de mettre la lumière à nouveau sur le sort des otages au moment où la trêve semble impossible et où la solution militaire apparaît comme le seul horizon du Premier ministre israélien.
La plupart des femmes et des enfants retenus dans la bande de Gaza ont été libérés par le Hamas. Il en resterait encore près de 130 otages. 34 seraient morts selon l'État hébreu qui appelle le monde à agir, à faire pression sur le Hamas pour leur libération. Le Hamas qui continue de nier toute violence sexuelle.
À 19h04, Hélène et Gabriel Attal s'invitent au dîner.
Le Premier ministre est l'invité du 20h de TF1 tout à l'heure pour parler déficit et travail. Après avoir réuni le gouvernement en séminaire ce matin, il faut trouver où économiser pour remettre le déficit public dans les clous. Bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
Et Gabriel Attal a déjà annoncé la couleur en parlant de rigueur hier à l'Assemblée nationale.
Car le gouvernement est bien sous pression, celle des oppositions, celle surtout des agences de notation qui pourraient dans quelques semaines seulement dégrader la note de la dette française. Aujourd'hui même d'ailleurs, Moody's juge improbable le retour sous les 3% de déficit en 2027. Ce matin, à Matignon, la question du retour à l'emploi a donc été le sujet numéro 1 du séminaire, puisque le gouvernement fait du plein emploi le levier principal de redressement des comptes publics. Le ministre des Finances, Bruno Le Maire, a poussé pour une nouvelle réforme de l'assurance chômage, la troisième. Celle du travail, Catherine Vautrin, a présenté des pistes pour un nouveau durcissement des règles. Stanislas Guérini a évoqué un plan pour faire respecter les 35 heures dans la fonction publique, assurant que trop d'agents sont encore en dessous de ces 35 heures. Gabriel Attal, lui, n'a dévoilé Aucune décision. Le fera-t-il dans une heure sur TF1 sans attendre la fin des négociations entre syndicats et patronat? Il pourrait, pour l'instant, réaffirmer sa volonté de tailler dans les dépenses sociales, tracer les grandes lignes, histoire de mettre la pression sur les partenaires sociaux sans totalement leur déclarer la guerre, tout en tentant de rassurer donc les marchés financiers.
Et Gabriel Attal qui a reçu tout à l'heure le proviseur de la cité scolaire Ravel après l'annonce de son départ pour lui dire son soutien et son engagement à être intraitable sur les atteintes à la laïcité, a fait savoir l'entourage du Premier ministre. Trois enquêtes sont désormais ouvertes sur les cyberattaques au sein des ENT, ces espaces numériques de travail, dans les écoles, dans toute la France. Encore une vingtaine d'établissements ont été visés par des messages malveillants la nuit dernière à Paris. La police est intervenue à plusieurs reprises ce matin pour des levées de doutes. C'est dans le contexte d'un plan Vigipirate renforcé qu'un exercice antiterroriste d'ampleur s'est déroulé aujourd'hui à Orléans, au Palais des Congrès. Près de 400 personnes, volontaires et forces de l'ordre, y ont participé. Antoine Van de Driesch l'a suivi pour France Bleu Orléans.
Il est 9h30 quand les faux terroristes déboulent sur le parvis arrière du Palais des Congrès. Cagoulés et armés de mitraillettes, ils sèment la terreur. Très vite, les forces de police interviennent, de la police secours jusqu'à la BRI. Un des faux terroristes a été abattu, il faut donc évacuer les premières victimes. Nouvel objectif maintenant, entrer dans le bâtiment. La clé de cet exercice, c'est la communication entre les services. Pendant ce temps, les premiers blessés sont pris en charge.
Un blessé ici, encore par balle au niveau de la jambe.
70 personnes ont incarné les victimes. Corentin a une fausse plaie sur son épaule, marquée par le réalisme de l'exercice.
Avec l'attentat en Russie, on peut arriver à se dire que ça fait un peu peur. C'est vrai que c'est rassurant de faire des exercices, que les secours soient préparés, que les forces d'intervention soient préparées aussi. Et cet exercice a ce rôle-là.
Parce qu'avant une grande échéance, comme les JO de Paris, cet exercice a d'autant plus d'importance, selon Marvin, lui aussi volontaire.
On sait ce qui se passe en ce moment. Je pense que c'est le moment, à mon avis, de se préparer au pire, malheureusement. Je pense qu'on est obligé de se préparer à ce genre de choses.
Au total, l'exercice a duré près de 7 heures.
Reportage France Bleu Orléans et un exercice similaire s'est déroulé à l'aéroport de Nice aujourd'hui. Évacués, plus de 170 Français et 70 autres ressortissants étrangers ont pu quitter Haïti aujourd'hui. Des personnes en situation de vulnérabilité, piégées dans le pays, toujours en proie au chaos, malgré une transition politique qui tente de se mettre en place. Bonsoir Christian Chesneau.
Bonsoir.
Et ils ont été évacués en hélicoptère.
Oui Hélène, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de quitter l'île, presque coupée du monde. Les desserts aériennes sont interrompus, car l'aéroport de Port-au-Prince est fermé, ainsi que la frontière terrestre avec la République dominicaine voisine. Quant au port de la capitale, il est régulièrement le théâtre d'attaques de la part des gangs qui contrôlent plus de 80% de la ville. Les échanges de tirs entre ces groupes criminels sont quotidiens, des écoles, des hôpitaux, des bâtiments gouvernementaux, y compris la banque centrale, continuent d'être pris pour cible. La crise sécuritaire est aggravée par une crise humanitaire. Une personne sur deux, selon l'ONU, souffre d'insécurité alimentaire aiguë. Bref, la situation devenait intenable pour ces ressortissants français et européens qui ont donc été transférés par hélicoptère militaire à bord d'un bâtiment de la Marine nationale stationné au large de l'île et qui doit les acheminer vers Fort-de-France, en Martinique. Comme la France, le Canada a aussi décidé d'affréter des hélicoptères pour évacuer ces ressortissants piégés sur l'île, qui sont environ 3000.
Et il y a quelques jours, l'UNICEF alertait sur un risque de malnutrition sévère pour quelque 125 000 enfants.
Nous sommes à quelques jours de Pâques et le nombre de baptêmes est en forte hausse.
C'est la conférence des évêques de France qui donne ces chiffres. Le nombre d'adultes, autour de 7 000, qui seront baptisés au cours de ce week-end, est en hausse de plus de 30% par rapport à l'année dernière. Et ce qui surprend le plus, c'est la proportion d'adolescents parmi eux. 5 000 des nouveaux baptisés ont entre 11 et 17 ans. Bonsoir Ajra Mohamad.
Bonsoir Hélène.
La conférence des évêques parle d'une réelle tendance de fond.
Oui, et parmi ces futurs jeunes baptisés, il y a Quentin, il a 19 ans, mais il a commencé son chemin spirituel il y a 5 ans quand il était au collège. Et samedi soir, il recevra son premier sacrement, donc à Trappes, dans les Yvelines.
Moi, déjà, à la base, je suis d'une famille issue de tradition chrétienne et non pas de pratique, forcément. Et quand j'étais jeune, j'étais assez dissipé. Et en fait, la religion, ça me régule, ça m'aide à me calmer, prier, ça m'apaise. C'est surtout en lisant les textes, les valeurs dans lesquelles je me retrouve, comme donner pour recevoir, se comporter correctement, respecter ses parents. La religion me guide, en fait.
Et l'étudiant assure avoir trouvé sa foi en discutant de religion avec ses amis, car le sujet est désormais abordé sans complexe chez ces jeunes, selon le père Vincent Duchesne, vicaire de la paroisse de Trappes.
De manière générale, la religion est moins un sujet tabou, voire n'est plus un sujet tabou. Entre les jeunes, on peut en parler, on peut assumer sa foi. Et ensuite, il y a quelque chose aussi de plus propre, peut-être là, à Trappes, au milieu populaire, où la foi est très présente, et il y a la foi chrétienne et la foi musulmane, hein, où du coup, la foi n'est pas un tabou. Voilà, ils vont pouvoir en parler et inviter un ami à venir voir à l'église. C'est quelque chose d'assez courant. Nous, c'est comme ça qu'on a des nouveaux jeunes qui arrivent, qui ont été amenés par des amis.
Avec un défi désormais pour l'église, garder ses nouveaux fidèles, d'autant que le nombre de nourrissons baptisés, lui, a baissé ces dernières années en France. 62 000 bébés l'ont été en 2022.
Ajra Mohamad, on connaît désormais la date du procès du Rassemblement National sur des soupçons de détournement de fonds européens. Ce sera après les européennes, à partir du 30 septembre prochain. Marine Le Pen et 26 autres membres du RN attendus à la barre. On suit le procès de ce photographe de mode, surnommé le violeur de Tinder, depuis la semaine dernière devant la cour criminelle de Paris. 17 femmes l'accusent de viol ou d'agression sexuelle. Les unes après les autres, elles ont raconté l'invitation sur les réseaux sociaux, le shooting photo, le verre d'alcool à l'arrivée, un rapport sexuel non consenti face à un accusé qui nie toute relation imposée. Charlotte Spiret, vous suivez les audiences. Alors que les débats touchent à leur fin, la cour s'est penchée aujourd'hui sur le profil psychiatrique de l'accusé.
Oui, et dans le box, alors que défilent les plaignantes à la barre, Salim Berada nie, vous l'avez dit, mais aussi agace, irrite, exaspère. En premier lieu, les parties civiles elles-mêmes. Ce matin encore, l'une d'elles n'a pu s'empêcher de cracher sa colère avant d'être invitée à quitter la salle. Leurs avocates aussi, jusqu'à l'incident parfois, et même à l'occasion, le président lui-même. Mais au-delà de l'attitude de l'accusé, c'est un tableau psychiatrique assez noir que dresse l'expert chargé de l'examiner. Personnalité autocentrée, narcissique, existence de l'altérité assez pauvre, éléments manipulatoires pervers ou encore profil quasi addictif au sexe. Est-ce que dans cette addiction, la femme est chosifiée, s'enquiert l'avocat général ? Elle est là avant tout pour satisfaire son besoin effréné, martèle l'expert psychiatre. Avec d'autres mots, moins scientifiques peut-être, mais tout aussi percutants, une ancienne compagne de l'accusé évoque quant à elle un homme manipulateur et égocentrique. Il aime dominer et humilier les filles. Lorsque les enquêteurs l'informent des viols dont son ex-compagnon est accusé par de nombreuses femmes, elle lâche à l'époque. Le connaissant, il dira qu'elles étaient d'accord. Il n'avouera jamais. L'audience lui a jusqu'à présent donné raison.
Compte rendu d'audience signé Charlotte Spiret. Un chiffre qui dit l'ampleur du gaspillage alimentaire. C'est l'ONU qui le donne aujourd'hui. En 2022, les ménages ont jeté l'équivalent d'un milliard de repas chaque jour dans le monde. Et c'est le bas de la fourchette. Une tragédie mondiale, juge le programme des Nations Unies pour l'environnement, alors que quelques 800 millions de personnes souffrent de faim. En Mayenne, c'est un éleveur qui n'en revient pas. 300 de ses pintades sont mortes d'un coup, pas à cause de la grippe aviaire, mais du passage répété d'avions de chasse au-dessus de son exploitation de Kouémévossé dans le nord du département. Raphaël Aubry l'a rencontré.
À l'entrée de son poulailler, un bâtiment tout en longueur, Nicolas Courteil soupire en regardant ses animaux.
Bah, du coup, je suis un peu énervé d'avoir 300 pintades comme ça étouffées. C'est pas normal.
300 sur 6700 pintades prêtes pour l'abattoir. L'éleveur s'est précipité quand il a entendu des cris.
J'ai commencé à voir de la poussière sortir par les fenêtres. Quelques minutes après, l'avion est repassé, ou un autre avion, je sais pas trop. Le massacre est arrivé, quoi. Donc du coup, il y avait, je dirais, un mur de pintade entassé sur une hauteur de 2 mètres de hauteur sur une paroi du bâtiment. J'ai fait mon maximum de les écarter, mais j'ai pas pu tout sauver.
Des morts similaires, ça reste rare, explique Jean-Yves Guéraud, référent aviculture à la Chambre d'agriculture.
C'est probablement ce qu'on appelle une frayeur soudaine. Il faut savoir que ça peut se passer quand même sur différents types d'animaux. Ça se passe aussi chez des éleveurs de dinde. J'ai eu, courant 2023, connaissance de quelques cas.
Pour Nicolas Courteil, c'est plusieurs milliers d'euros de pertes, surtout qu'il n'est pas soutenu par son assurance.
Donc c'est l'assurance d'une autre personne qui doit marcher, mais problème, pour l'instant, il n'y a rien.
Faut-il encore prouver le lien avec l'armée de l'air ? La gendarmerie a ouvert une enquête.
Parce que l'éleveur a porté plainte, c'était le reportage de Raphaël Aubry, France Bleu Mayenne. Et revoici les rémunérations du COJO, le comité d'organisation l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques montrée du doigt. Au-delà du cas du président Tony Estanguet, le magazine de France 2 Complément d'enquête révèle dans son émission de demain soir une forte augmentation de la masse salariale, passée en 6 ans de 470 à 584 millions d'euros, avec pour certains salaires des bons impressionnants. Bonsoir Fanny Lechevestrier.
Bonsoir Hélène, bonsoir à tous.
Le COJO a tenté de déminer aujourd'hui.
Oui, il ne conteste aucun des chiffres qui sont donnés, mais il s'est notamment longuement arrêté sur l'augmentation de salaire fin 2023 de 4 postes de direction. 4 postes, dont 3 tenus par des femmes, a insisté à plusieurs reprises Michael Aloisio, le directeur général délégué, et de prendre l'exemple de la rémunération de la directrice de la communication citée dans le documentaire, passé de 150 000 à 195 000 euros par an. Je suis surpris qu'en 2024, on préfère pointer du doigt cette augmentation plutôt que de saluer la correction d'une injustice et une mesure qui vise à encourager l'égalité salariale, s'est-il défendu. Fabrice Latcroix, le directeur administratif et financier de Paris 2024, a ensuite lui expliqué l'importante masse salariale globale, affirmant déjà qu'elle ne représentait que 13% du budget, une fourchette basse par rapport à d'autres grands événements sportifs, et financée à 96% par des fonds privés. Quant aux rémunérations élevées, la Cour des comptes a effectivement parlé en 2021 d'une grille de salaire attractive, mais logique, c'est encore justifié le COJO quand vous devez prendre les meilleurs experts du monde, des personnes très chercher et demander.
Éclairage signé Fanny Lechevestrier.
Ça ne passe pas encore pour le congé menstruel. Hein.
Après une proposition socialiste au Sénat en février dernier, un texte écologiste était présenté aujourd'hui en commission à l'Assemblée nationale pour permettre aux femmes souffrant de règles douloureuses de s'arrêter de travailler sans certificat médical jusqu'à 13 jours. Et on n'est pas passé loin, Laurence Perron à l'Assemblée.
Le rapporteur du texte, l'écologiste Sébastien Peytavi, a soumis des députés hommes de tous bords politiques à un simulateur de règles douloureuses en leur demandant de lire en même temps un texte comme il le ferait à la tribune de l'Assemblée nationale.
Pourtant, ah putain, ah ça y va.
Malgré des symptômes particulièrement handicapants, les personnes atteintes d'endométriose sont en moyenne 8 ans en errance médicale.
Des dysménorrhées ne sont... Oh purée.
La pédagogie s'est poursuivie en commission aujourd'hui de manière très concrète.
Monsieur Turquois.
Merci Madame la Présidente. Qu'est-ce que c'est que des sanitaires adaptés?
Madame Garin, expliquez-nous ça.
Quand on utilise les protections menstruelles qui sont réutilisables comme les coupes menstruelles, c'est d'avoir des toilettes où il y a un lavabo juste à côté, parce que sinon ça veut dire que vous allez aux toilettes avec votre cup, vous l'enlevez, vous avez du sang plein les doigts et vous devez soit sortir, soit avoir votre propre bouteille d'eau.
La droite LR et la majorité ont toutefois considéré qu'un tel droit était exorbitant. Brigitte Lizot, députée Renaissance du Nord, ancienne chef d'entreprise.
Je n'ai jamais rencontré au cours de ma carrière aucune de mes collègues qui se soit arrêtée systématiquement pour cause de règles douloureuses. Ne faisons pas non plus preuve de trop d'angélisme. Qui n'a pas entendu dire, certaines femmes, je n'ai pas pris tous mes congés d'arrêt d'enfant malade.
En France, 7 millions de femmes souffrent de règles douloureuses et handicapantes, une femme sur 10 d'endométriose.
Un texte rejeté à 16 voix aujourd'hui en commission. Il a 76 ans et une trentaine de films d'action à son compteur, sans compter sa carrière politique. Il y a quoi mettre le cœur à l'épreuve? Eh bien justement, Arnold Schwarzenegger vient de révéler qu'il avait récemment été opéré du cœur et qu'il s'est fait poser un pacemaker, un peu plus machine désormais. C'est lui-même qui fait le trait d'humour, encore loin de Terminator quand même. Allez, on part à Lyon pour parler foot et Ligue des Champions. Le quart de finale retour entre les Lyonnaises, vainqueurs à l'aller, et le Benfica Lisbonne. Il se joue en ce moment ce match. Christophe Vincent, vous êtes en direct et après une demi-heure de jeu, pour l'instant 0-0 entre les deux équipes.
Oui, les Lyonnaises dominent, mais dominer c'est bien, mais pas suffisant, alors que là c'est une action de nouveau par Dedan qui échoue face à la gardienne portugaise Poels, comme avait échoué à deux reprises l'attaquante lyonnaise Eugénie Le Sommer. Donc je le disais, elle n'y arrive pas, c'est pas suffisant, il faut marquer pour se mettre à l'abri, parce que les Lyonnaises qui sont soutenues par 20 000 spectateurs, c'est pas mal pour un quart de finale de Champions League, eh bien si elles encaissaient un but, c'est Lyonnaises de Benfica. Ça remettrait les deux équipes à égalité sur l'ensemble des deux matchs, puisqu'à l'aller, Lyon s'était imposé 2-1 à Lisbonne. Alors, la Ligue des Champions, c'est bien sûr l'objectif majeur pour la saison de ces Lyonnaises. Elles visent une 13e finale, un 9e trophée. C'est un record, toutes compétitions confondues. L'an passé, elles avaient chuté en quart de finale, sorties par Chelsea. Elles ont été averties par leur entraîneuse hier, Sonia Bonpastor, qui a dit il faut absolument se mettre à l'abri se qualifier et attendre après le match du PSG. Paris qui reçoit les Suédoises de Haken demain soir avec une perspective alléchante, une demi-finale, Paris-Lyon ou Lyon-Paris et bien sûr la certitude d'avoir un club français en finale. On n'en est pas là pour l'instant. 0-0 entre l'OL et Benfica à 10 minutes de la mi-temps. Et pour l'instant, donc, l'OL est qualifié pour les demi-finales.
Merci Christophe. Vincent, direct de Lyon, on suit ce match avec vous. Encore un mot de sport pour une immense déception, celle de Wout Van Aert, le cycliste belge victime d'une grave chute hier. Le verdict est tombé, clavicule cassée, plusieurs fractures aux côtes. Il est forfait pour le Tour des Flandres dimanche et pour Paris-Roubaix, les deux monuments qu'il rêvait de gagner.
Eh ben merci beaucoup Hélène Philippe, puisque vous reviendrez demain, est-ce que vous savez ce que vous pourriez dire à Terminator Schwarzenegger ?
Je suis une machine.
Non, I'll be back. Allez, la météo.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles, Euromaster, votre partenaire confiance depuis plus de 30 ans.
Élodie Callac, un temps agité ce soir et demain.
Oui, en lien avec la dépression Nelson située au sud de l'Irlande. Alors des averses orageuses sur la façade ouest ce soir avec du vent jusqu'à 100 à 120 km à l'heure sur la côte. Ces pluies traverseront le pays cette nuit avec du vent. Elles s'attarderont demain matin sur les Alpes et la Corse. Attention au risque d'avalanche sur le sud des Alpes et sur la montagne Corse demain. Sur le nord-ouest, demain matin, puis sur toute la moitié nord, on aura un temps instable avec des averses parfois orageuses, du grésil, de fortes rafales de vent, jusqu'à 100 à 110 km à l'heure de la Bretagne aux Charentes et même 120 à 130 sur les côtes. D'ailleurs, une vigilance orange est en cours.
Et on trouvera des éclaircies au sud.
Oui, sur le sud-ouest le matin et puis en Méditerranée et en vallée du Rhône, le soleil s'imposera pour l'après-midi. Attention, la mer sera agitée avec de fortes vagues en Méditerranée. Le Var est en vigilance orange vague submersion pour toute la matinée de demain et les températures seront de saison, souvent 2 à 8 degrés le matin. L'après-midi, 11 à 15 degrés au nord et 15 à 20 au sud.
Et merci beaucoup, Élodie Callac de Météo France.